Sur Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Transméditerranéenne, Italie.
Eh bien bonjour chers auditeurs, nous voici à nouveau sur l'antenne d'Agora Côte d'Azur avec mes deux complices, Barbara et Marcel.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Mes deux complices vont vous parler aujourd'hui d'un immense monsieur, Andrea Camilleri, vous avez certainement entendu parler, hein. Vous l'avez certainement lu. Alors je vous laisse la parole, Marcel et Barbara, à vous.
Andrea Camilleri est fils unique dans une famille de la haute bourgeoisie, mais qui est désargentée. C'est un Italien d'origine sicilienne qui est né en 1925 et il a poursuivi ses études à Palerme où il fréquente la bohème. Avant de se tourner vers la littérature, il a mené une longue carrière de metteur en scène pour le théâtre, la radio et la télévision. D'abord auteur de poèmes et de nouvelles, Camilleri se met sur le tas à écrire dans la langue de sa Sicile natale.
Grazie Marcella. Allora, come ha detto Tino, subito ora parliamo oggi di un grande scrittore, Andrea Camilleri, che gli italiani senz'altro conoscono perfettamente, qui in Francia è conosciuto moltissimo anche qui. E d'altra parte non tradurrò i titoli dei libri, li lascerò in francese affinché le persone che non lo conoscono ancora possano approcciare alla sua scrittura, che è veramente molto particolare e molto interessante. Allora, questo nostro Andrea Camilleri era figlio unico, di una famiglia dell'alta borghesia, completamente squattrinati. Un italiano di origine siciliana, nato nel 1925, Andrea Camilleri ha fatto i suoi studi a Palermo, dove ha frequentato comunque l'ambiente della bohème. E prima di rivolgersi alla letteratura, comunque ha avuto una lunga carriera di scenarista per il teatro, per la radio e per la televisione. Ed è stato innanzitutto autore di poemi e di novelle, e si mette un po' più tardi a scrivere nella lingua della sua Sicilia natale. Però volevo aggiungere che Andrea Camilleri è stato anche un attore. Ha in effetti interpretato un vecchio archeologo nel film di Rocco Mortelliti, La strategia della maschera. Si tratta di un film giallo, poliziesco, che non ha avuto un gran successo, ma narra alcuni eventi che si svolgono tra la Sicilia e Roma, relativi alla sparizione di preziosi reperti archeologici.
Tu as raison, Barbara, d'apporter ces précisions. Donc Camilleri a été acteur. Il a en effet interprété un vieil archéologue dans le film de Mortelliti, La stratégie du masque. C'est un policier qui n'a pas eu grand succès, qui raconte des événements qui ont eu lieu entre la Sicile et Rome, relatifs à la disparition de précieuses découvertes archéologiques.
Dès le départ, vous nous faites comprendre que les Français, finalement, on ne le connaît que sur un aspect et qu'il a multiples facettes à son œuvre. Malheureusement, nous ne le connaissons que sous l'aspect d'auteur de romans policiers. Or, entre les anecdotes de Barbara et ce que nous dit Marcel, c'est beaucoup plus vaste que ça.
Certo. Voilà,
les Italiens, eux, connaissent l'œuvre de Camilleri.
Si, penso di sì.
Tout à fait. Il a d'abord été connu pour ses romans historiques. Voilà, je cite « La saison de la chasse »,« La révolution de la lune »,« Rêve de justice sociale » menée par une éphémère femme vicereine de Sicile. Il est plongé dans l'écriture de ce qui allait devenir son chef-d'œuvre, l'opéra de Vigata, l'histoire d'un préfet obstiné face à la population locale, et se souvient d'un conseil de Leonardo Sciascia, cet autre Sicilien. Je cite « Le roman policier est sans doute la meilleure cage dans laquelle un écrivain puisse se glisser, parce qu'il y a des règles concernant le rapport logique, temporel et spatial du roman dont il ne peut faire abstraction.
Mm-hmm. Sì, in effetti Andrea Camilleri è stato conosciuto per i suoi romanzi storici. Allora, cito quelli che ha detto Marcella, in francese, come vi ho detto, La saison de la chasse, La révolution de la lune, Rêve de justice sociale menée par une éphémère femme vicereine de Sicile. E si immerge in questa scrittura che poi diventerà il suo vero e proprio capolavoro, l'opera di Vigata, Histoire d'un préfet obstiné face alla popolazione locale. E qui c'è, Marcella ha citato una frase di Leonardo Sciascia, che è un altro siciliano meraviglioso, che dice il romanzo poliziesco è senza dubbio la miglior gabbia nella quale uno scrittore può lasciarsi scivolare, perché ci sono delle regole, cioè concernenti il rapporto logico, il rapporto temporale e spaziale del romanzo, di cui non si può fare astrazione. A questo proposito volevo aggiungere che i romanzi del commissario Montalbano seguono delle regole precise per quanto riguarda la struttura. Dice Camilleri, per ogni romanzo di Montalbano 18 capitoli, ciascuno di 10 pagine. Ogni pagina del mio computer vuol dire 23 righe. Un romanzo ben congegnato sta perfettamente in 180 pagine. Immaginate un po' le regole, eh? Per i racconti 24 pagine, o meglio 4 capitoli di 6 pagine ciascuno. Se non sento questa mia metrica vuol dire che qualcosa non va, dice Camilleri.
Ah oui, ça, ce sont des règles
strictes, hein?
Strictes, on peut le dire. Donc, je traduis ce qu'il a décrit lui-même. Pour chaque roman de Montalbano, 18 chapitres de chacun 10 pages, qui sur mon ordinateur constituent 23 lignes. Un roman bien construit peut parfaitement tenir dans 180 pages. Pour le récit, 24 pages. Ou mieux, 4 chapitres de 6 pages. Et si on ne perçoit pas cette structure, cela veut dire que quelque chose ne va pas.
Bien, alors on arrive au cœur du sujet pour les auditeurs d'Agora Côte d'Azur, fait pour les Français en général et pour les auditeurs d'Agora Côte d'Azur, même pour les habitués de cette émission franco-italienne, quand même, notre héros, c'est Montalbano. Enfin, vous en avez parlé.
Oui.
Alors, allons-y. Pourquoi Montalbano?
Eh bien, Montalbano, il lance ce personnage, ce héros, qui est un concentré détonnant de fougue méditerranéenne et d'humeur bougonne. Il évolue avec humour et gourmandise au fil des enquêtes, et ce pour le plus grand bonheur de ses lecteurs et lectrices. Sa Sicile, c'est une terre aride et jaune. Les montagnes y sont pelées, les villages sont perchés sur les flancs, perchés vers la mer, taches blanches sur les coteaux, sous un soleil écrasant. En bord de mer, une ville imaginaire, Vigata. Et je cite, aux limites variables, à géométrie variable, en réalité, tutta la Sicilia.
Estremamente poetico. Allora sì, Montalbano, come dite Marcella e Tino, è il suo eroe, no? È il successo di questa serie che è consacrata al commissario Montalbano, che è questo eroe, che è un concentrato prorompente di fuga mediterranea e di umore un po' scontroso, che evolve con umorismo e golosità durante le diverse inchieste, e questo per la più grande gioia dei suoi lettori. La sua Sicilia è una terra arida e gialla, le montagne sono pelate, i villaggi sono arroccati sui pendii, sono chinati verso il mare, delle macchie bianche sulle colline, su un sole che è completamente schiacciante. È in riva al mare una città immaginaria, Vigata, che, come scrive Camilleri, è ai limiti variabili, a geometria variabile, in realtà è tutta la Sicilia.
Bien, on en arrive donc au sicilien, puisque Camilleri, qui a été un grand auteur italien, va passer à la langue sicilienne. Il serait intéressant de savoir comment il en arrive à l'écriture sicilienne. Et puis, bon, dire aussi aux auditeurs d'Agora Côte d'Azur, s'ils vont en Sicile, je pense que votre émission va leur donner envie d'y aller. Attention, ne cherchez pas Vigata, comme le dit Marcel et Barbara. C'est un concentré de toute la Sicile.
Exact.
Donc, allez en Sicile et vous verrez Vigata.
Exact.
Oui, comment passe-t-il de la langue littéraire italienne à la sicilienne? On le découvrira avec Barbara, mais la Sicile, dans les romans des policiers, elle est présente à chaque ligne. Ses odeurs, ses paysages, sa chaleur, ses humeurs, ses personnages et sa langue. C'est un incontournable, une création et une réussite littéraire, réinventé pour l'occasion par la plume de Camilleri. La langue, c'est un mélange d'italien et de sicilien qui permet d'être au plus près de cette ambiance sicilienne. Ses traducteurs, Dominique Vitoz ou Serge Quadrupagne, ont soit gardé des termes siciliens qui se comprennent dans le contexte, soit ont utilisé des mots du Midi pour restituer la richesse et la subtilité de ce langage. Ils ont écrit, animé des ateliers pour faire comprendre ce travail très particulier autour de l'œuvre de Camilleri.
Alors, si, questa Sicilia, questo paese straordinario, che è presente a ogni linea dei suoi scritti, è presente i suoi odori, i suoi profumi, i suoi paesaggi, il suo calore, i suoi personaggi e anche la lingua, quindi, che è una creazione, è una riuscita letteraria reinventata per l'occasione dalla piuma di Camilleri. La lingua, che è un miscuglio tra l'italiano e il siciliano, permette veramente presenti a questo ambiente siciliano, e i suoi traduttori, notamente Dominique Vitoz e Serge Quadruppani, mantenuto dei termini siciliani che si comprendono nel contesto, oppure hanno utilizzato delle parole del sud francese, il sud della Francia, per restituire la ricchezza e la sottilità, la finezza del linguaggio. Hanno scritto e animato anche dei laboratori, dei workshop, come si dice, per far comprendere questo lavoro molto particolare attorno all'opera di Camilleri. E come chiedeva Tino e come ha anche annunciato Marcella, effettivamente Camilleri non ha sempre scritto in siciliano. Le sue prime opere letterarie furono delle poesie che rispettavano scrupolosamente le regole di composizione, con un linguaggio letterario italiano. Poi un nuovo interesse per il teatro lo fece abbandonare la poesia. Così si imbatté nelle opere in dialetto di Carlo Goldoni, un grandissimo, e da lì scoprì l'uso letterario del siciliano.
Il n'a pas toujours écrit en sicilien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ses premiers ouvrages littéraires, ce sont des poésies qui respectaient scrupuleusement les règles de composition, avec une langue en italien littéraire. Puis, un intérêt pour le théâtre lui fit abandonner la poésie. Ainsi, il s'est plongé dans les ouvrages en dialecte de Carlo Goldoni. Et de là, il a découvert l'usage littéraire du sicilien.
Vous pouvez nous donner quelques titres pour nous mettre un peu en appétit?
Je vais donner la première enquête de Montalbano, Mort en pleine mer. Et ensuite, je pense que tu as une anecdote intéressante et qu'on te laisse la parole.
Alors, moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Camilleri. Par contre, j'ai rencontré un autre grand auteur méditerranéen. J'ai rencontré Manuel Vasquez Montalban dans le cadre d'une fête d'un journal du Sud, entre autres, ça s'appelle le journal La Marseillaise, la fête du journal La Marseillaise. C'est un peu l'équivalent des fêtes de l'Unita qu'il y avait dans le temps en Italie. Je peux vous dire que c'était un hédoniste, que c'était un épicurien. Hein. Mais c'était surtout Camilleri et Manuel Vasquez Montalban, ce sont des complices. Hein. C'est pas par hasard si le commissaire de Camilleri s'appelle Montalban. Hein. Si vous rajoutez à ces deux compères le Marseillais Iso, vous avez là les initiateurs du renouveau du polar méditerranéen. Les intrigues policières sont étroitement mêlées, l'histoire, la politique, les rapports sociaux et économiques, et surtout leur amour pour tout ce que certains appellent le petit peuple. Comment oublier leur truculence? Tous trois étaient des hédonistes, des épicuriens. Les recettes de cuisine qui émaillent leurs écrits constituent une véritable anthologie de la cuisine méditerranéenne. Autre point commun, tous trois étaient de gauche, pas celle de la compromission, la gauche révolutionnaire.
Oh, ok, perfetto. Ah, ma che bella aneddoto che ci racconti, Tino. Allora, dice che Tino ci racconta che Camilleri è stato ha avuto una complicità molto stretta con lo scrittore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán, che Tino ha avuto il piacere di conoscere personalmente. E quindi dice, non è quindi un caso se il commissario dei suoi scritti, dei suoi gialli di Camilleri si chiamano Montalbano. Se si aggiunge a questi due personaggi anche il marsigliese Izzo, ecco che abbiamo questa triade, no, degli iniziatori del rinnovo del polar, del giallo, del poliziesco mediterraneo, perché agli intrighi polizieschi sono strettamente legati e mescolate la storia, la politica, i rapporti sociali, economici e soprattutto il loro amore per certi aspetti di quelli che loro chiamano lo petit peuple, cioè il popolo, il piccolo popolo. Come dimenticare, dice Tino, la loro troculenza. Tutti e tre sono degli edonisti, sono degli epicurei, e le ricette di cucina che rilegano insomma i loro scritti costituiscono veramente una vera antologia della cucina mediterranea. E un altro punto comune è che tutti e tre erano di sinistra, non quella del compromesso, ma la sinistra rivoluzionaria. Magari facciamo una pausa musicale, cosa ne pensi, Tino?
Ah, sì, allez, la musica on en a besoin.
E allora
sì,
senz'altro. E soprattutto questa poi dà anche calore e gioia, perché abbiamo scelto per voi una piccola musica di tarantella siciliana.
Cet intermède musical, je pense que les auditeurs d'Agora Côte d'Azur l'auront compris et l'auront apprécié. Je vous demandais de nous parler un peu, Barbara et Marcel, de nous parler un peu des autres personnages qui entourent Montalban. Parce que c'est le héros, mais il y en a d'autres qui le mettent en valeur.
Eh oui.
Tout à fait. C'est effectivement toute une galerie de personnages que nous retrouvons à chaque enquête. Mimi Augello, le coureur de jupons, le solide et fidèle inspecteur Fazio, et l'inénarrable Cattarella, un peu lourdeau, qui a un poste de faveur, ce qu'on appelle uno raccomandato. Il pratique une langue très personnelle et pas toujours très compréhensible, le comble vu sa place de standardiste. C'est un mélange de bonne volonté, de naïveté et de compréhension décalée qui fait vraiment tout son charme.
Sì, allora, come dice Marcella, c'è tutta una panoplia, una galleria di personaggi che noi ritroviamo a ogni inchiesta del Montalbano. Abbiamo Mimi Augello, che è il Latin Lover della situazione, il solido e fedele ispettore Fazio e l'incredibile Cattarella, che è un po' un zoticone, che ha un posto di favore perché è un raccomandato. Camilleri pratica una lingua molto personalizzata e non sempre veramente comprensibile anche per un italiano. E il massimo visto il suo posto di standardista, ed è un miscuglio di buona volontà, di spontaneità e di comprensione un po' eccentrica che fa tutto il suo fascino.
Mais avec ce personnage de Cattarella, n'est-ce pas un peu un clin d'œil à la commedia dell'arte où on passe toujours du tragédante au comédien?
Senz'altro, cioè, si ritrova bene, sì.
Tout à fait, c'est une bonne remarque. Et c'est le personnage, comme dans la commedia dell'arte, qui va être le pilier du comique de répétition, l'une des marques du style Camilleri. On rit en lisant les aventures de Montalban, mais le comique est parfois aussi poétique, parfois cruel, qui dépeint sans concession la situation sociale et culturelle de son pays. On découvre les failles du partage du gâteau des travaux publics, l'argent sale, les dérives de ceux qui ont le pouvoir. Montalbano est jeté dans cette société sicilienne et Camilleri se lance dans une satire ironique. e feroce di celle-ci.
Sì, Marcella, ti traduco, interessante quello che dici, che il personaggio che è il personaggio che va a essere diviene uno dei pilastri, diciamo, del comico di ripetizione, uno delle marche di stile veramente di Camilleri, perché si ride leggendo queste avventure di Montalbano, ma questo il comico è anche spesso poetico, a volte anche crudele, e che dipinge senza alcuna concessione alla situazione sociale e culturale del paese. Si scoprono come dice, i difetti, ma io direi piuttosto i punti deboli, diciamo, che di coloro che si condividono la torta dei lavori pubblici, i soldi sporchi, la deriva di quelli che hanno il potere. E Montalbano è gettato in questa società siciliana. Camilleri si lancia in una satira ironica e molto a volte feroce di questa società.
Vous pouvez me parler un peu plus de... Enfin, nous parler, je pense aussi aux auditrices, aux éditeurs d'Agora Côte d'Azur. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ce commissaire? Je crois savoir que ça n'a strictement rien à voir avec James Bond.
Vai, Marcella.
Pas vraiment, oui. Andrea Camilleri le présente, et je le mets entre guillemets, comme le voisin de palier, l'homme ordinaire. Mais il n'est pas complètement un homme ordinaire. Il n'est pas non plus un super-héros. Il a bien sûr sa compagne Livia, une génoise avec laquelle... Eh oui, Montalbano entretient avec elle une relation à distance, houleuse mais tendre.
Quest'uomo proprio che è dipinto come dice allora il commissario, no? Tino ha chiesto qualche precisione sul commissario Montalbano. Camilleri lo presenta come una persona non completamente ordinaria, come il vicino di Pianerottolo, ecco. Però non è ordinaria e non è neanche il supereroe. È una persona in tutta la sua umanità, che ha una compagna che si chiama Livia, che è una genovese, e con cui Montalbano intrattiene una relazione a distanza, perché tra Sicilia e Genova, ecco, c'è un po' di distanza, e una relazione che era molto burrascosa e tenera al tempo stesso.
Bien, si on quand même d'en dire encore un peu plus, essayons de découvrir encore un peu plus le personnage, parce que bon, il y aura les livres, mais les anecdotes, c'est bien aussi, ça donne envie. Ça.
Ah oui,
alors c'est un grand amateur de littérature, Montalbano. Il étonne et surprend ses interlocuteurs par l'étendue de sa culture, mais ce qui le caractérise plus encore, c'est son goût pour les plaisirs de la table.
Voilà. Ecco, questo voleva sapere. Tino, il voulait savoir ça.
Je voulais en venir là.
On le sait bien, on le connaît. Donc, il commente chaque plat qu'il choisit avec attention parmi les spécialités de son île. Allez, j'en cite quelques-unes. Arancine, sarde, spaghetti alle vongole, caponata, granita e brioche. Avec une gourmandise raffinée.
Allora sì, questo Montalbano era un gran amatore di letteratura, e sorprende i suoi interlocutori per la sua ampia cultura. Ma ciò che lo caratterizza ancora di più è il suo gusto per i piaceri della tavola, ed è per questo che Tino è un incondizionale di Montalbano. Commenta ogni piatto che sceglie con attenzione tra le specialità della sua isola, tra cui Marcella ha citato gli arancini, i famosi arancini, le sarde, gli spaghetti alle vongole, la caponata, la granita e brioche è rimasta il francese, voilà. Sì. Con una golosità, una ghiottoneria veramente molto raffinate.
Et n'oubliez pas que la gourmandise n'est qu'un péché mineur. Donc on peut quand même s'y adonner avec modération, certes, ou plus si...
c'est fini, oui.
Moi j'aimerais quand même, parce que la gourmandise c'est quand même mon truc, hein. Donc on va encore aller un peu plus loin là.
Oui.
Je sens que si je vous pousse un peu, vous allez en dire plus.
Bon, alors moi je dirais même que Montalbano, il n'est pas dans la modération, hein. Il est dans la gourmandise permanente. Il fréquente une trattoria de confiance, la Trattoria d'Enzo, qui est dans tous ses livres. À son domicile, il y a Adeline. Sa gouvernante connaît ses goûts et se révèle fine cuisinière. Attentive à ce patron qu'il a en plus soutenu durant les années d'incarcération de son fils. Complicité et soutien réciproque. Enfin, on relèvera son amour pour la mer, au bord de laquelle il vit dans une petite maison sur la plage.
Oui, oui. E allora questo personaggio frequenta una trattoria di fiducia, che è la trattoria, l'accento italiano, cara, Trattoria Denso. Al suo domicilio c'è Adelina, che è la sua governante, che conosce bene i suoi gusti e si rivela essere una cuoca hors pair, una veramente molto raffinata, attenta a questo suo padrone, che l'ha sostenuta durante gli anni di incarcerazione di suo figlio. Una complicità e un sostegno quindi che è reciproco. E per finire possiamo anche mettere in evidenza il suo amore per il mare, al bordo del quale vive in una piccola casetta sulla spiaggia.
On peut donc parler d'une cuisine ni snob ni sophistiquée comme certains restaurants en France, mais on peut parler d'une cuisine. Mais ça, c'est un peu le typique de la cuisine italienne. C'est quasiment partout de la cuisine familiale. Bonne, ouais. Mais simple.
Sans,
et populaire.
Sans être gastronomique, sans être gastronomica, è comunque raffinata, fine, sì. E voilà. Camilleri, sì. Da ricordare che Camilleri è stato anche un fumetto. Nel fumetto Topolino del 16 aprile 2013 appare la storia Topolino e la promessa del gatto. Il racconto, ambientato in Sicilia, vede Topolino aiutare il commissario Salvo Topalbano, parodia del celebre commissario Salvo Montalbano, un altro personaggio della storia, alla fisionomia dello scrittore siciliano. La storia è stata supervisionata proprio da Camilleri.
C'est une belle anecdote, il fallait pas l'oublier.
Donc
il y a eu aussi une bande dessinée dans la BD Topolino, qui voudrait dire petit rat, mais on garde l'italien. Du 16 avril 2013, apparaît l'histoire Topolino et la promesse du chat. Le récit se passe en Sicile et voit Topolino aider le commissaire Salvo Topalbano, parodie du célèbre Montalbano, et un autre personnage de la BD à la physionomie de l'écrivain. L'histoire a été supervisée par Camilleri lui-même.
Je pense que les auditrices et les auditeurs d'Agora Côte d'Azur auront compris que c'était un homme complet qui a touché à peu près à tous les arts, enfin à toutes les facettes de l'écriture, du cinéma, du théâtre, etc. Donc effectivement un homme extraordinaire. Moi j'aimerais que vous me disiez, pour cette fin d'émission, que vous nous expliquiez son départ, parce que je pense que son départ n'est pas un départ tragique, mais au contraire un grand clin d'œil à la vie.
Effectivement, Andrea Camilleri n'est plus. À l'âge de 93 ans, celui qui est considéré comme le pape du polar italien nous a quittés. Un roman posthume a été publié un an après sa disparition, le 17 juillet 2019. Le roman est présenté en deux versions, datées l'une de 2005 et l'autre de 2016. L'auteur ayant voulu mettre en scène la fin de la carrière de l'inspecteur.
Oui, sì, Camilleri è morto all'età di 93 anni, questo Camilleri che è stato considerato come il papa del giallo dei polizieschi italiani, è morto nel 1918, è un romanzo postumo, è stato pubblicato appunto un anno dopo la sua morte, il 17 luglio 2019, un romanzo che è stato presentato in due versioni, datate una del 2005 e l'altra del 2016. Poiché l'autore aveva voluto mettere in scena la fine della carriera dell'ispettore. Da notare che nel 2006 ha già Camilleri consegnato all'editore Sellerio l'ultimo libro della saga del commissario Montalbano, con il finale della storia, chiedendo che questo finale venisse pubblicato dopo la sua morte. E cita: «Ho scritto la fine 10 anni fa, ho trovato la soluzione che mi piaceva e l'ho scritta di getto. Non si sa mai se poi arriva l'Alzheimer. Temendo l'Alzheimer ho preferito scrivere subito il finale. Ma la cosa che mi ha fatto, parla sempre Camilleri qui, la cosa che mi fa più sorridere è quando sento che il manoscritto è custodito nella cassaforte dell'editore, ma in effetti è semplicemente conservato in un cassetto.
Donc, come tu nous l'hai expliqué, en 2006, il a déjà livré à l'éditeur Sellerio Le dernier livre de la saga du commissaire Montalbano, avec la fin de l'histoire, demandant que celui-ci ne soit publié qu'après sa mort. Quelle organisation ! Et, je le cite, il explique « J'ai écrit la fin il y a 10 ans. J'avais trouvé la solution qui me plaisait et je l'ai écrite d'un jet. On ne sait jamais quand peut arriver l'Alzheimer. J'ai préféré écrire tout de suite ce final. Ce qui m'a le plus amusé, c'est quand j'ai entendu que le manuscrit était enfermé dans le coffre-fort de l'éditeur. En effet, il était simplement conservé dans une caisse. »
Eh bien, vous voyez, comme quoi les grands auteurs ne meurent jamais, ils restent leur œuvre. Donc Camilleri est toujours là, il est toujours avec nous. Un peu de musique, parce qu'il nous a donné une leçon de vie. Hein. La mort n'est qu'un accident de la vie.
Ça fait partie de la vie.
Voilà.
Eh oui. Allora, per terminare questa trasmissione, e prima di arrivare a una delle ricette che ci darà Tino, una pausa musicale di Marcella Bella. Ho scelto Marcella, come la nostra Marcella che ci ha fatto questa emissione. Marcella Bella che ci canta la Sicilia antica.
Voici maintenant le moment attendu par nos amis franco-italiens, ce moment gourmand. On va, en hommage à ce grand monsieur, on va vous donner la recette des arancini. Arancini qui sont extrêmement présents dans ces romans. Alors le nom arancini dérive du mot arancia qui signifie orange en italien. L'arancino sicilien ressemble à une orange par sa forme e sa couleur.
Ah, la ricetta degli arancini non poteva mancare, chiaramente. Dice Tino che il nome arancini viene dalla parola arancia, che significa arancia in italiano. L'arancino siciliano assomiglia a un'arancia per la sua forma e anche per il suo colore. Vai con gli ingredienti, Tino.
Sì, per 4 persone, 300 g di riso a risotto cuit, 50 g di petit pois, 50 g di jambon cru, 50 g di mozzarella, un œuf battu, farine, chapelure, sel e poivre.
Voilà, comincio ad avere già fame. Allora, 300 g di riso per il risotto, chiaramente, cotto, 50 g di, come si chiamano, petit pois, madonna, non mi viene più il nome.
Piselli.
Di piselli, grazie mille, di piselli. Di piselli, 50 g, grazie Marcella, di prosciutto crudo, 50 g di mozzarella, un uovo sbattuto, farina del pane grattugiato, sale e pepe.
Allora, per la preparazione il faut compter 20 minuti e per la cuisson également 20 minuti.
Ok, 20 minuti di preparazione, 20 minuti di cottura.
Vous préchauffez votre four à 200 degrés, vous coupez en fins morceaux la mozzarella et le jambon, mettez-les ensemble dans un bol.
Ok, allora, il forno a 200 gradi, tagliare a pezzettini la mozzarella e il prosciutto, metterli insieme in una tazza.
Ajoutez les petits pois, du sel, du poivre e mélanger bien.
Aggiungere i piselli, il sale, il pepe e mescolare bene.
Modeler avec le riz cuit 16 boules de taille égale e former dans chacune d'elles une cavité.
Ah, la parte un pochino più difficile. Modellare con il riso cotto 16 palline di grandezza uguale e in ognuna di queste palline fare una cavità.
Remplissez-les avec le mélange mozzarella, jambon et petits pois, puis refermez-les.
Alors, le riempire con questo miscuglio di mozzarella, di prosciutto e di piselli, poi richiudere questa cavità, quindi riformare la pallina.
Roulez chaque boule dans la farine, puis dans l'œuf et enfin dans la chapelure.
Sto tanto assaporando che non riesco neanche più a tradurre. Allora, bisogna passare queste palline nella farina, poi nell'uovo e infine nel pane grattugiato.
Ensuite, placez-les sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé et huilez-les légèrement à l'aide d'un vaporisateur rempli d'huile d'olive.
Ok, si mettono su una piastra da forno, su del papier, della carta d'alluminio e mettere un po' d'olio sopra per farle diventare un po' croustillante, per farle diventare un po' craccanti.
Sì. Mm. Enfournez pendant 20 minutes environ jusqu'à ce que les chapelures soient bien croustillantes.
Esatto, quindi 20 minuti circa in modo che diventi tutto ben arrostito, insomma,
Dégustez bien chaud, accompagné d'un coulis de tomate, fait maison, je précise, fait maison.
Oui, et da mangiare caldi, accompagnati con una salsa al pomodoro, come dice Tino, fatta in casa, tradizione, chiaramente. E io so che Tino li fa buonissimi.
Bon appétit à tous, à bientôt sur Agora Côte d'Azur.
Arrivederci, grazie di averci ascoltato.
Au revoir et à bientôt.